Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview pour ce sommet Manager demain. Et pour celle-ci, j'ai le grand plaisir d'accueillir un ami, un auteur, un conférencier qui a également une casquette hyper importante dans le monde des sports du cerveau parce qu'il est également vice-président de Tony Buzan International. Et c'est Nicolas Lisiak. Bonjour Nicolas.
Bonjour Jérôme et bonjour à tous.
Ravi d'être avec toi aujourd'hui parce que pour les personnes qui se posent la question pourquoi et comment entraîner son cerveau à l'ère de l'IA, eh bien, vous allez pouvoir repartir avec plein de connaissances et d'astuces pratiques également pour pouvoir entraîner l'organe qui est le plus important pour les managers. Et justement, par rapport à ça, moi, j'ai une question à te poser parce que il y a depuis pas mal de. Enfin, on voit souvent hein, des personnes utiliser cette citation de l'ancien président Truman qui disait que leaders are readers, que les leaders sont des lecteurs. Est-ce que c'est toujours vrai à l'ère de l'IA alors que tout le monde a accès maintenant à toutes les informations accessibles, imaginables, possibles à l'ère de l'IA aujourd'hui?
Pour moi, c'est toujours d'actualité parce qu'il s'agit de ton cerveau. Et donc, tu peux déléguer beaucoup de choses dans la vie. Tu peux déléguer le ménage, tu peux déléguer, je sais pas, la cuisine. Tu peux déléguer plein de trucs en fait. Sauf que tu peux la seule chose que tu peux pas déléguer, c'est ton cerveau et les capacités intellectuelles que tu développes. Alors, aujourd'hui, avec l'IA, tu peux déléguer. Sauf que le risque, il est incroyablement dangereux. Et donc, moi, je me rappelle encore parce que, tu sais, j'étais à l'époque, 2008, je suis devenu le plus jeune manager chez AXA en Pologne. Et donc, c'était à la fois quelque chose de. J'étais honoré et à la fois la pression, elle était assez intéressante. J'étais dans le domaine de. Dans la vente des assurances de prévoyance. Donc, j'ai dû construire une équipe et j'ai managé une équipe dans ma région, une équipe des agents qui étaient sur le terrain, mais c'était vraiment orienté prévoir la retraite, prévoir aussi si peut-être on peut décéder dans la vie, donc peut-être avoir une assurance d'essai, assurance vie, etc., etc. Mais c'était vraiment planification de ta vie financière, etc., etc. Et je me rappelle très bien, il y a une fois, parce que j'ai participé à beaucoup en interne, beaucoup de formations, de conférences. J'ai suivi aussi toute la certification Train the Trainer à l'époque. Et il y avait un conférencier, c'était un Polonais qui a fait une carrière en Allemagne. Donc, il n'est pas connu ni en France. Voilà, il était connu aussi en Pologne parce qu'à l'époque, c'était un gars qui était, j'ai oublié son nom, mais ça n'a pas d'importance. Mais ce qu'il avait dit, en fait, justement, il a parlé de readers. Leaders are readers. Et il a parlé aussi d'une habitude. Et c'est ça où je vais en revenir, c'est l'habitude de lire 15 minutes par jour de quelque chose de ton domaine. Et il parlait de l'effet cumulé dans l'apprentissage à ce moment-là. Et donc l'effet cumulé, donc j'adore le livre aussi, l'effet cumulé, parce que je fais la parenthèse, mais le lien, et aussi le côté de d'apprendre tout au long de la vie, notamment par la lecture. Il n'y a pas que la lecture qui compte, parce que tu peux apprendre par plein de biais. Sauf que la lecture, ça fait du bien à ton cerveau, il y a plein d'études qui le démontrent, lire. À n'importe quelle vitesse, parce que c'est sûr que si tu es capable de lire 500, 600 mots minutes au lieu de lire 150 mots minutes comme j'étais à l'époque, ben tu peux lire mieux pour ton cerveau et tu peux lire d'une manière beaucoup plus efficace sans perdre de la compréhension. Dès que tu dépasses 600 mots, etc., là, il y a des discussions, il y a des choses. Mais jusqu'à 600 mots minutes, franchement, déjà, il y a de quoi faire. Et cette habitude de lire donne de l'effet cumulé. Imagine que tu vas lire pendant une année comme ça, une deuxième année, une troisième. En 7 ans, tu peux vraiment marquer quelque chose. Donc, si par exemple, la personne qui nous regarde, vous n'avez pas cette habitude-là, mais cherchez à la développer. Et si vous démarrez en fait dans le en management, si vous démarrez dans le domaine de cadre, d'accompagner, etc., ben ça commence par vous en fait. Et donc d'où l'importance de lire et de continuer en fait à lire et s'éduquer. Si que ce soit un livre ou une revue professionnelle, être abonné à ça. Et encore mieux, et là il y a aussi des études assez intéressantes qui le démontrent, c'est de lire dans un papier, sur papier. Et pas sur l'écran. Parce que c'est pas le même impact sur le cerveau. Donc, ça fait du bien, tout simplement. Tu sais que lire, c'est un moyen de réduire le niveau de stress plus important qu'une balade. Lire, c'est un moyen de déstresser ton corps, ton système nerveux, d'une manière plus impactante qu'une balade en forêt ou une marche ou même le sport.
Je crois qu'il y avait même une étude qui a mesuré ça justement sur les personnes qui se sont entraînées pendant 30 jours sur cette pratique-là et qu'on a pu mesurer ça également, je crois.
Ça oui, ça avec même j'y suis pour quelque chose parce que avec les chercheurs de l'université de Kenitra. Mais au-delà de cette étude-là, il y en a plein d'autres qui demandent juste à lire, même lire sans s'entraîner en fait à la lecture efficace, rapide, etc. Tout simplement lire sur papier, en fait, ça c'est un moyen de déstresser et ça c'est juste phénoménal, c'est incroyable. Donc imagine que tu vas lire et marcher.
Et ouais, je rebondis là-dessus sur justement les readers are readers. Dans à l'ère de l'IA, parce que c'est vrai que en fait il y a plusieurs aspects, plusieurs enjeux à ça. Le premier, il y a l'enjeu de la connaissance, on peut dire qui est réduit parce que la connaissance est maintenant accessible à toutes et à tous. Et en revanche, quand on a un manager en tant que collaborateur, on a des attentes en fait vis-à-vis de lui, de qu'il sache des choses, qu'il sache répondre, qu'il s'y connaisse un minimum. En tout cas, en plus en francophonie, c'est vrai que les Français sont assez exigeants en termes d'expertise, de compétences techniques, de savoir de la part de leur supérieur hiérarchique. Et c'est pour ça qu'ils s'appuient souvent sur eux là-dessus. Et le fait de lire nous assure de pouvoir constamment s'actualiser en termes de connaissances. Et comme tu le dis, si en plus on le fait dans notre domaine d'expertise, alors ça deviendra encore super pertinent. Ça, c'est le premier aspect. Mais il y a aussi le deuxième aspect également, parce que tu parlais d'habitude, d'entraînement. Et c'est vrai qu'il y a des études qui le montrent, que pratiquer la lecture régulièrement, non seulement va améliorer les connaissances, mais aussi d'autres compétences cognitives comme la mémoire, comme la concentration, comme l'attention ou même la créativité, qui sont quand même des compétences assez importantes quand on est manager. Et j'imagine que, comme tu as l'habitude d'accompagner les personnes, que ce soit des collaborateurs ou des managers, à apprendre régulièrement, à avoir des bonnes habitudes d'apprentissage, de lire régulièrement, j'imagine que tu as pu observer ça aussi en termes de posture managériale, l'importance d'avoir ces types de pratiques dans son quotidien.
Pas toujours. Et en même temps, à chaque fois, parce que tu sais, je donne aussi des formations de formateurs pour les cadres qui forment occasionnellement. Donc, il y a des managers, il y a des cadres qui vont former, je sais pas, trois fois ou quatre fois dans l'année. Tous les trois mois, par exemple, il faut donner une formation, mais normalement, ils sont en mode manager. Et donc là, j'apporte une boîte à outils en fait en deux jours de comment former, comment préparer aussi une formation et etc. Et je parle pendant une heure de lecture rapide et efficace. Et parfois, on me pose la question, ça sert à quoi en fait quel est le lien entre la formation de formateur et la lecture efficace? Et je suis étonné en fait d'entendre ces questions-là, donc je dois expliquer. Et l'autre jour encore, quelqu'un dans les commentaires a reproché, j'ai eu un commentaire comme ça, comme quoi, alors que c'est une formation de formateur, on nous a parlé de lecture rapide et de lire. Alors que pour moi, c'est tellement évident, peut-être je ne vois plus, j'ai mal expliqué certainement. Et en même temps, pour moi, en fait… entretenir ton cerveau, impacter la capacité à gérer la charge mentale, parce que finalement, aussi, c'est aussi une question extrêmement importante. Donc, tu peux augmenter ton réservoir de gestion de charge mentale, mais aussi bien s'organiser pour réduire les choses totalement inutiles. La lecture et apprentissage en tant que manager, en tant que formateur occasionnel, et si je dois transmettre les informations, ben je dois continuer à m'éduquer, et ça passe par la lecture notamment. Il n'y a pas que ça, mais ça reste un moyen extrêmement puissant et un moyen qui est indispensable.
Et qui, je dirais, qui est aussi atemporel, parce que c'est vrai que apprendre, c'est bien, mais apprendre des choses qui sont réelles, qui sont véridiques et qui ne sont pas fausses, comme par exemple les deepfakes, les fake news, ou sinon les hallucinations de l'intelligence artificielle, bah, c'est important. Et c'est que ça demande de l'esprit critique, ça demande de prendre du recul, ça demande d'analyser les informations auxquelles nous sommes exposés pour ne pas ensuite prendre de l'information non filtrée, non analysée et la redistribuer ensuite à ses collaborateurs, à ses équipes, et que ça fasse effet boule de neige. Et justement, ma prochaine question pour toi, c'est dans un monde où on est constamment connecté aux réseaux sociaux, remplis de fausses informations, entre autres, pas que ça, mais il y en a beaucoup, ou de l'intelligence artificielle sur laquelle on se repose de plus en plus comme argent comptant du savoir, sauf que l'intelligence artificielle crée énormément d'informations fausses, on parle d'hallucinations. Est-ce que quelque part, revenir au livre, et notamment revenir au livre papier, est une sorte de solution en termes de confiance, hein, par rapport à la confiance aux informations auxquelles nous sommes exposés, et à la confiance aux informations que l'on distribue, et je dirais même un acte de rébellion, j'ai envie de dire, face à l'explosion de tous ces outils, de toutes ces technologies numériques.
Je suis perplexe par rapport à ça, dans le sens où, si je peux m'expliquer, l'hallucination, nous, les humains, on le fait aussi. Mmh. On a des faux, nous avons des fausses mémoires, je veux dire des faux souvenirs. Voilà, ça existe, c'est prouvé, c'est incroyable. Comment on peut produire des faux souvenirs? Et aussi en termes de géopolitique, j'ai envie de dire, courte parenthèse, un pays enseigne une histoire à sa population jeune à l'école, un autre pays, sur le même événement, il va enseigner ça totalement autrement. Donc, ce n'est pas juste l'IA qui va halluciner. D'où l'importance de développer son esprit critique et d'être sourcé. Donc, faire un vrai travail comme les journalistes à l'époque, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est très rare, un journaliste qui fait un vrai travail de journaliste, c'est de se sourcer, en fait. C'est de demander là. Et d'avoir des différentes sources. Et c'est ça le réflexe, c'est l'esprit critique. D'ailleurs, si j'adore la chaîne YouTube L'Esprit Critique. Les gars, ils font un travail extraordinaire. Et donc, ce travail-là qui est important. Tu peux le faire par la lecture et aussi par ton réseau. Tu peux te sourcer là, à gauche, à droite, etc. Donc, à chaque fois, vérifier. Mais plus tu as de l'expertise, plus tu vas voir rapidement que l'IA est en train de sortir du n'importe quoi. Mais ça, c'est ta responsabilité toujours. Donc, d'où l'importance de s'éduquer, de lire, mais d'avoir la conscience qu'en fonction des pays, on a des différents points de vue. La France, l'Algérie, tu vois, ce n'est pas la même vision de l'histoire parce qu'en fait, y a des choses. Et c'est comme ça avec tous les pays, en fait. Il n'y a pas que nous, en fait.
Donc, c'est vrai que et si on prend cette habitude d'être curieux, finalement, de ne pas être figé avec notre vécu, notre version, entre guillemets, mais d'être curieux de ce que voient les autres, de ce que connaissent les autres, bah, ça permet d'avoir une plus grande perspective. Et si je sors du côté géopolitique pour être plus dans le domaine de l'entreprise, c'est valable aussi, plutôt que de voir que sa vision en tant que manager, sa vision personnelle, d'être curieux aussi de, bah, du point de vue de ses collaborateurs, du point de vue des autres secteurs de l'entreprise, des autres départements, ce qui permet d'avoir cette vision globale et donc d'avoir un meilleur esprit critique ou de prendre des décisions qui sont plus justes également.
Exactement, parce que quelqu'un qui est un employé qui est peut-être dans une équipe, il n'a pas la vision d'ensemble. Et là, bon, j'ai beaucoup aimé One Minute Manager de Ken Blanchard, où vraiment le fait d'expliquer, plus mieux tu expliques à toute ton équipe quelle est la vision globale et quels sont les moyens d'y atteindre et de quelle manière on s'y prend et pourquoi justement toi à ce poste-là tu le fais de cette manière-là et pas de cette manière-là. Là, en fait, l'acceptation et l'envie de travailler, elle augmente. Et plus, et ça, c'est l'autre jour, j'ai discuté avec une psy. Elle m'a dit, mais j'ai pas cherché à confirmer, mais le fait, il y a des gens qui sont capables de travailler, ils acceptent le salaire jusqu'à 30% moins élevé, à condition qu'ils sont dans une équipe où il y a une vision, où ils adhèrent en fait à la mission. Où ils se sentent bien, ils se sentent compris et ils peuvent progresser dans leur vie. Il n'y a pas que l'argent qui compte, en fait. Contrairement au fait où je suis peut-être dans un environnement beaucoup plus toxique, je gagne mieux, mais finalement, de l'intérieur, j'en peux plus, quoi.
D'ailleurs, il y a Patrick Collignon qui discute aussi avec Clément de ce sujet-là sur les comportements qui peuvent générer la démotivation, des comportements toxiques, justement. Donc, il y a pas mal d'éléments qui vont être traités là-dessus. Parce que, en fait, quand on est dans une dynamique d'apprentissage, on parle beaucoup de lecture parce que je sais que ça, c'est vraiment un des piliers importants pour toi. Mais en effet, il n'y a pas que ça. Il y a plein de manières, plein de formes différentes d'apprentissage. L'important étant d'être curieux et d'avoir cette volonté d'apprendre, de s'actualiser et pas de rester figé dans un esprit figé, justement, contrairement au growth mindset, l'esprit de progression. Et il y a aussi une autre dimension qu'on n'a pas encore beaucoup abordé, que j'aimerais qu'on commence à aborder, c'est la notion d'entraînement cérébral. Parce que c'est vrai que là, pour l'instant, on a beaucoup parlé d'accumulation de connaissances, d'avoir une vision d'ensemble, etc. Mais au niveau de l'impact cognitif, l'impact sur le cerveau, en quoi c'est important, selon toi, d'être dans cette dynamique de sport cérébral quand on est manager? Pourquoi c'est important? Parce que c'est vrai qu'on parle de sport physique pour se sentir bien, en bonne santé physique, etc. Mais on ne parle pas beaucoup, finalement, de sport cérébral.
On n'en parle pas assez. Alors que c'est une question de santé mentale. J'ai eu la chance il y a un an, j'ai eu la chance de discuter quelques minutes avec le ministre de la Santé de l'époque, français. J'ai eu l'occasion de lui offrir le livre que j'ai coécrit avec toi, Jérôme.
Ouais, doubler votre vitesse de lecture en 30 jours aux éditions Alizio.
C'est ça. Doubler votre vitesse de lecture en 30 jours. L'idée, c'est de considérer ton cerveau comme un organe qui a une capacité, en fait, de développer des nouvelles connexions. C'est pas nouveau, ça, on le connaît aujourd'hui. Et tu peux le faire d'une manière, avec une méditation, avec beaucoup de différents exercices. Quand tu apprends une langue, il y a aussi un temps d'apprentissage, etc. Il faut au minimum, je veux dire, si tu veux par exemple apprendre une nouvelle langue et tu te prends vraiment bien, en 3 à 6 mois, tu peux commencer à avoir des résultats palpables, mais pas plus vite. Et 3 à 6 mois, et c'est vraiment le début. Et c'est exactement le même ratio, j'ai envie de dire, si tu as envie de voir les résultats avec la lecture efficace. Si aujourd'hui, tu as 200 mots minutes et tu as envie d'aller à 600 mots minutes, donne-toi 3 à 6 mois et tu vas voir le progrès. Parce que pendant les 2 premiers mois, qu'est-ce qui se passe? Même jusqu'à 3 premiers mois, ce sont des protéines dans le cerveau qui s'activent. Mais les connexions ne sont pas encore là. Les connexions, elles ont besoin au minimum de 3 mois pour commencer en fait à apparaître et pour que tu puisses sentir des résultats. Donc, si tu t'entraînes tu boostes ton cerveau 15 minutes par jour, par exemple, avec des techniques de lecture, avec un métronome, avec de la respiration guidée, avec aussi le travail sur le mindset et un petit peu voilà, la méthode Koué qui permet en moins de neutraliser, en fait, si jamais tu as le... un côté je n'y crois pas du tout ou je suis frustré, etc., ben, je suis un process et j'observe. Réellement, au bout de 6 mois, tu vas avoir vraiment quelque chose qui est très palpable et tu vas doubler facilement ta vitesse de lecture d'une manière, telle manière où tu es à 400 voire 500 mots minutes avec le même niveau de compréhension qu'avant. Tu développes ton vocabulaire. Le vocabulaire, c'est accès à la mémoire. Ça, il y a des belles études qui le démontrent. Développer ton vocabulaire permet d'augmenter ton niveau de mémorisation. Donc, tout est lié. Tu entraînes ta mémoire, tu entraînes ton cerveau et il a une meilleure capacité, en fait, à connecter, en fait, les choses, gérer la charge mentale, à condition, bien évidemment, de toute manière, il faut faire attention à ça parce qu'on est limité quoi qu'il arrive. Et c'est comme ça qu'il faut prendre la chose. C'est un peu, je fais le lien avec quelque chose qui est très, très facile à comprendre, pas forcément facile à appliquer pour les Français, c'est apprendre une langue étrangère, petite blague. Mais c'est possible. Toi, tu as appris l'anglais très bien.
Ça a pris du temps.
Mais ça prend du temps. Moi, j'ai appris le français à l'âge de 13 ans, donc très tôt. J'avais 3 heures de français par jour, 15 heures par semaine. Et en 9 mois, j'étais opérationnel. Je pouvais parler, je parlais, je me débrouillais parce qu'au bout d'une année d'apprentissage comme ça, j'étais parti avec mes parents 2 semaines à Bruxelles. Et vraiment, c'était un test super. Et je me débrouillais partout. Et j'étais le guide pour mes parents à l'époque, alors que je viens d'une famille qui... Il n'y a personne qui parlait français dans ma famille. J'ai vraiment appris à l'école publique en plus, mais bon, classe expérimentale. Je fais partie d'un test expérimental. Enfin bref, maintenant, si je fais encore le lien avec l'IA, parce qu'il y avait une question qui est très intéressante au jour d'aujourd'hui, c'est ta capacité à communiquer. Tu peux communiquer en mode interpersonnel. Un manager, l'intelligence, compétence interpersonnelle, elle doit être bien développée.
Interpersonnel, pour les personnes qui ne savent pas, on est d'accord, c'est une intelligence relationnelle. Hein, c'est de savoir bien communiquer avec les autres.
C'est ça. Accompagner l'esprit d'équipe, etc., etc. Deuxième compétence, c'est, je dirais, intrapersonnelle. Moi, avec
communication
moi,
avec soi-même.
Voilà, la lecture, c'est intrapersonnel. Mais aujourd'hui, avec l'IA, nous avons aussi, faut savoir communiquer avec l'IA, donc extra-personnel. Si tu sais bien lire, si tu sais bien construire des phrases, etc., faut savoir parler avec les machines. Ça n'existait pas il y a encore 10 ans. Faut savoir parler avec des machines. Et attention, il y a des robots qui arrivent. Tesla, ils ont arrêté 2 lignes de production aux États-Unis de Tesla, je ne sais plus, le modèle S ou un autre. Et ils vont faire 1 million de robots par an, connectés avec IA, etc., qui vont remplacer des gens dans les usines au départ. Il va falloir savoir communiquer avec ces engins. Donc, compétences à développer, savoir communiquer avec des machines, avec des robots. Et après, le sport du cerveau, c'est une question de santé mentale. Tu veux être bien dans ton cerveau, dans ton corps, faire du sport, mais aussi pratiquer des différents types d'activités intellectuelles. Il n'y a pas que la lecture, il y a plein d'autres choses. C'est un must-have, c'est indispensable aujourd'hui pour moi.
Et je dirais même que c'est un véritable atout de la confiance en soi, parce que la confiance en soi, c'est se sentir capable. Et si je sais que même s'il y a un événement imprévu, que je suis capable de mémoriser, de retenir des informations importantes, même si je n'ai pas de quoi prendre des notes, Si on me donne un rapport à lire ou un long, j'ai beaucoup d'emails à lire et je sais que je peux lire plus rapidement, ben, ça me donne confiance en moi. Si je sais que j'ai plein d'informations, mais grâce au mind mapping, par exemple, j'arrive à les structurer, à avoir la clarté, ça me donne confiance en moi. Donc, je pense qu'il y a aussi cet élément de entraîner mon cerveau, me donne confiance en moi, en me donnant de nouvelles capacités, et cette confiance en soi va se répercuter positivement chez les autres, parce que le stress, il est communicant. Si je n'ai pas confiance en moi, alors parce que je me sens dépassé, je me sens débordé, je ne me sens pas bien équipé en tant que manager pour faire face au stress qui vient d'en haut, bah, ça se répercute vers le bas. Mais si je sais que j'ai entraîné mon cerveau à absorber ces éléments-là, être plus équipé et donc à faire mieux le tampon entre le stress du dessus et ensuite mon équipe, bah, c'est sûr que le management se passera mieux. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça.
Je suis d'accord, surtout dans le monde, encore une fois, géopolitique qui nous sert voilà, des belles surprises, entre guillemets. Les scénarios voilà, des prix qui varient, l'instabilité économique, tu en parles depuis longtemps, le monde VUCA ou VICA en fonction des langues, où nous sommes vraiment en mode vulnérable, nous sommes c'est incertain, c'est complexe, c'est ambigu. La réponse est là. La réponse est là. Et quoi qu'il arrive, le monde, qu'est-ce qui nous va servir? Moi, je sais que je vais pouvoir m'adapter parce que je suis outillé, en fait. Je suis outillé et je suis en forme physique et mentale. Un exercice, tu as parlé d'entraîner le cerveau, et s'amuser avec, en fait. Genre, un exemple que je fais aussi en formation, c'est mémoriser les prénoms de toutes les personnes de ton équipe ou de la salle en formation. S'il y a 10, 15, 20 personnes dans la salle, tu peux le faire en une demi-heure, d'une manière ludique. Et si, admettons, tu es manager ou tu es dans une équipe, tu arrives dans un environnement où il y a des nouvelles personnes, etc., ben, s'amuser en fait à mémoriser les prénoms d'une manière très spécifique. Et qu'est-ce que c'est génial quand tu t'adresses à des gens et par leurs prénoms. Ça touche tellement à l'identité, c'est tellement important. Et c'est tellement quelqu'un que peut-être tu vois assez rarement et là tu t'adresses. Ah oui, il se rappelait de mon prénom, oh, c'est génial, etc. Et les gens, ils se sentent vraiment concernés et c'est top.
Et c'est vrai que ça, c'est un entraînement qui commence déjà par l'envie, avoir envie de le faire, parce que souvent, quand on se présente, souvent, moi, j'entends, ah bah, de toute façon, moi, j'oublierai parce que je ne retiens pas les prénoms. Bah, c'est sûr que si on envoie ce message-là à son cerveau, le cerveau, lui, va confirmer ce qu'on lui dit. Et après, bah, c'est vrai qu'il y a quelques techniques. Hein, déjà, pour pouvoir mémoriser, l'idée, ce n'est pas de mémoriser 20 prénoms d'un coup, c'est de découper en morceaux, un peu la technique du chunking, faire des groupes de 3 ou 4 ou 5 personnes max à la fois, et aussi faire des associations. Par exemple, associer quelqu'un que je connais déjà, enfin que je connais déjà, qui a le même prénom qu'une personne que je viens de rencontrer.
Et
là, on entraîne le cerveau.
Ce qui est incroyable, c'est que tu as déjà eu cette situation-là, et je pense que toutes les personnes qui nous regardent pourront le confirmer. Tu as déjà vu, en fait, le cerveau, il ne va pas oublier le visage. Très rare. Tu vas dire, ah oui, on s'est déjà vu. Non, tu sais que je t'ai déjà vu quelque part, mais je ne me rappelle pas de ton prénom. Et c'est frustrant. Alors que quand tu dis la technique voilà, de répétition, la technique aussi... de dire est-ce que tu peux me rappeler ton prénom s'il te plaît, voilà, ne pas avoir peur parce que c'est normal, tout le monde oublie les prénoms. Et en même temps, si tu le fais d'une manière consciente et tu t'entraînes et tu répètes, tu regardes quelqu'un et tu te donnes par exemple l'excuse de dire le prénom de quelqu'un pour parce que ça te fait une répétition, etc., parce que tu vas faire une association avec un tel prénom, avec genre Bernard, avec un, tu vas l'imaginer avec un chien Saint Bernard, etc., etc. Mais la seule chose qui te limite, c'est ta créativité. Et donc, associer, c'est plus facile. Répéter et la mémoire de travail jusqu'à 5, je dirais, c'est la clé si tu es d'un coup confronté à 10, 15, 20 prénoms. Et après, voilà, c'est de l'amusement. C'est pour ça, tu vois, aussi, dans les sports du cerveau, dans la Ligue mondiale que je co-anime, nous avons une épreuve Name and Faces. Donc, c'est l'épreuve des noms, des visages et des prénoms. Et tu dois mémoriser ça. Et les gens, ils peuvent. Ceux qui sont super entraînés, ils vont très, très loin.
Et une autre astuce que je partage souvent aussi, pas qu'aux managers, hein, c'est vraiment aux personnes qui souhaitent entraîner en mémoire, parce que c'est vrai que tout à l'heure, parler de l'IA, on délègue le cerveau à l'IA. En fait, il y a un vrai déchargement cognitif sur l'IA et qui fait qu'on n'entraîne plus notre mémoire. On se repose beaucoup sur les outils technologiques pour retenir à notre place. Et donc, c'est une capacité cognitive qu'on délaisse d'une certaine manière. Et il y a un autre dicton qui dit use it or lose it. Il faut les utiliser, sinon ça se perd. Eh bien, une habitude que j'ai mise en place, c'est tous les soirs, avant de me coucher, j'essaie de me rappeler, je me rappelle des 5 moments clés de la journée. Et je les revisualise. Ça permet d'entraîner l'imagination, d'entraîner l'association, la répétition. Enfin, ça permet vraiment d'entraîner la mémoire à ce moment-là. Et à la fin de la semaine, eh bien, j'essaie de refaire toute la semaine. Et ça permet aussi d'ancrer aussi les moments importants de notre vie, parce que voilà, on cherche toujours à être plus productif, à être plus efficace, etc. Mais en étant dans cette dynamique-là, finalement, le temps nous passe entre les doigts. Et à un moment donné, on dit bah mince, qu'est-ce qui s'est passé cette année, quoi ? C'est passé tellement vite. Oui, et donc, je trouve que ça permet de faire prendre du temps, justement, tout en entraînant sa mémoire. Ce qui est sûr, ce que j'aime bien avec cette conversation, c'est que c'est important de faire du sport physique, mais c'est aussi important de faire du sport du cerveau. Donc, comme on va parler de mémoire, tu as beaucoup parlé de lecture efficace, de lecture rapide. On n'aura pas le temps de faire une initiation à la lecture rapide là-dessus. En revanche, pour les personnes qui le souhaitent, si vous êtes intéressé par ça, on a créé un petit test, un petit test de lecture pour voir à quelle vitesse vous lisez actuellement. Et déjà commencer par ça, parce que pour apprendre la lecture rapide, il faut commencer déjà à savoir comment mesurer sa vitesse de lecture et ensuite de voir comment on peut progresser. Donc, si ça vous dit, on vous met le lien en commentaire et aussi en descriptif de la vidéo. Et sinon, pour les personnes qui veulent aussi aller plus loin et que, par exemple, si vous n'êtes pas encore inscrit au sommet Manager Demain, sachez que si vous inscrivez, non seulement vous allez accéder à toutes les autres vidéos du sommet, mais en plus à des synthèses visuelles que vous pouvez télécharger et en plus la version MP3 de tous les webinaires. Donc, vous aurez en fait une série de podcasts dans votre téléphone que vous pouvez écouter dans votre voiture, par exemple. Et également un live avec Clément Bergon et moi-même qui aura lieu donc à la fin de cet événement, et aussi d'autres cadeaux. Donc, si ça vous intéresse, également, on a le lien en descriptif et également en commentaire de cette vidéo. Nicolas, est-ce qu'il y avait un autre message important que tu aimerais nous transmettre avant de conclure cette interview ?
C'est d'avoir cette conscience que nous avons tendance à surestimer ce qu'on est capable d'atteindre en peu de temps, par exemple en un mois. Et très souvent, on sous-estime ce qu'on peut atteindre en se donnant beaucoup plus de temps. Par exemple, un an. C'est surtout avec le sport cérébral, il faut avoir cette patience. Et en un mois, deux mois, c'est pas assez. Il faut étaler et idéalement se donner 12 mois pour voir des éléments extrêmement palpables et qui changent la donne.
Bien, je pense que c'est une bonne manière de conclure cette interview. Merci beaucoup, Nicolas. Et donc, à très bientôt.
À bientôt.